VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Troubles en Guinée équatoriale, les autorités équato-guinéennes mènent des recherches intensives partout dans le pays pour traquer les mercenaires à l'origine du coup d'État que Malabo a annoncé mercredi avoir déjoué. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP ce vendredi un haut responsable du régime du président Teodoro Obiang Nguema qui a tenu à garder l'anonymat. Les recherches sont en cours non seulement dans la zone d'Ebibéin et autres forêts environnantes, mais aussi dans les localités où les assaillants se seraient infiltrés, notamment à Bata, Malabo et Mongomo, a ajouté ce haut responsable qui fait état d'une relative accalmie dans la situation. Ebibéin, ville située au carrefour des trois frontières entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, a été le théâtre mercredi d'affrontements entre l'armée équato-guinéenne et des éléments infiltrés, faisant un mort parmi ces derniers, selon Malabo. Les frontières de la Guinée équatoriale ont été fermées à cet endroit et des renforts y ont été déployés par Malabo. La fermeture de la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale depuis bientôt 2 semaines en raison de la tentative de coup d'État présumée contre le président Teodoro Obiang Nguema n'est pas sans conséquence pour les commerçants et leurs affaires. Écoutons ce reportage de Moki Edwin Kinzeka rendu par John Lyndon.
C'est une atmosphère relativement calme ici à Kiosi, une ville du sud du Cameroun aux frontières avec le Gabon et la Guinée équatoriale. C'est un point de passage des produits agricoles, boissons et autres marchandises transportées par camion à destination des pays voisins. Mais l'homme d'affaires camerounais Fidèle Kemier affirme que ses activités sont à l'arrêt depuis la fermeture de la frontière et lui-même est resté coincé en Guinée équatoriale pendant près de 2 semaines.
Nous sommes partis au travail le 24 décembre. À notre retour vers 16h, nous avons trouvé que les Guinéens avaient mis des barrières. Donc, on croyait que comme c'est des affaires habituelles, ils le font souvent, que ça devait passer. Mais depuis ce 24, nous ne sommes plus rentrés jusqu'à aujourd'hui.
Falamou Fatouma, femme d'affaires équato-guinéenne, affirme, elle, que la fermeture de la frontière l'empêche de faire des livraisons.
Depuis qu'on a fermé la chaîne, depuis le 24, j'ai tout mangé l'argent. J'ai fui pour partir au village. J'ai beaucoup de dettes, je vais faire comment?
Le 29 décembre dernier, la Guinée équatoriale a déclaré avoir arrêté des personnes à la frontière en possession de lance-roquettes, de fusils et d'un stock de munitions. Malabo a déclaré que les personnes arrêtées avaient l'intention de déstabiliser le gouvernement du président Teodoro Obiang au pouvoir depuis 1979 et qui est le plus ancien président en exercice en Afrique. Le Cameroun a déclaré avoir arrêté 40 hommes lourdement armés à la frontière et a renforcé la sécurité le long de la frontière de 290 km. Félix Ngelengele, gouverneur de la région du Sud Cameroun, a laissé entendre que les Camerounais devraient être vigilants car les soldats sont là pour assurer leur sécurité en cas d'attaque.
Le commandant d'armes de la place a pris des mesures pour que les forces soient sur le terrain et contrôlent les mouvements à la frontière. Et je pense que, en ce moment, le dispositif de surveillance a été levé d'un cran. Les forces sont en alerte et on peut rassurer les populations que la situation est sous contrôle.
Le président Obiang, 75 ans, a été élu pour un 5e mandat de 7 ans en 2016 durant des élections truquées en sa faveur selon l'opposition. Son pays est l'un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique subsaharienne, mais une grande partie de ses 1,2 million d'habitants vivent dans la pauvreté. Le leader équato-guinéen a déclaré qu'une guerre se préparait contre son régime, prétendument en raison de sa longévité au pouvoir.
Cameroun, libération jeudi soir de Moussa Ramat, l'ex-maire de Fotokol, ville de l'extrême nord du pays, qui avait été interpellé en septembre 2014 pour complicité avec le groupe djihadiste nigérian Boko Haram, et finalement acquitté le 28 décembre. L'ancien maire devait être libéré après 3 ans de détention, mais son avocat avait dénoncé mardi à l'AFP le maintien en détention de son client plusieurs jours après son acquittement. Moussa Ramat était accusé d'avoir fourni des armes à Boko Haram et aidé à la commercialisation du produit des pillages des combattants du groupe Djihadis qui attaque fréquemment des localités du nord du Cameroun.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RDC, l'Église catholique congolaise poursuit ses attaques contre le régime du président Joseph Kabila. L'épiscopat catholique a dénoncé hier les brutalités policières au cours d'une messe à Kinshasa, 4 jours après une marche de catholiques sévèrement réprimée par les forces de sécurité. Les détails avec Anastasie Toudiech.
Officiellement, l'office célébrait la mémoire des martyrs du 4 janvier 1959, victimes de l'administration coloniale belge qui avait interdit et réprimé une manifestation, épisode fondateur de l'indépendance du 30 juin 1960. Ces martyrs de l'indépendance rappellent les morts d'aujourd'hui qui ont subi les brutalités policières, a estimé l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo. Il s'exprimait en la cathédrale Notre-Dame du Congo, pleine à craquer, avec au premier rang deux des principaux opposants, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale, passé à l'opposition. Étaient également présents des activistes du mouvement citoyen Congolais Debout. Cela doit nous renforcer dans notre conviction que c'est le début de la fin de la dictature dans notre pays, a déclaré M. Kamerhe, ajoutant « d'autres actions doivent absolument suivre très rapidement ».
Au Soudan du Sud voisin, des affrontements entre l'armée gouvernementale et les forces rebelles ont fait plusieurs morts dans l'état de Yei River. Les dernières violations en date de l'accord de cessez-le-feu conclu il y a 2 semaines. Les précisions de Lionel Gaïma.
En début de semaine, les membres de la Troïka, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège, avaient adressé une sévère mise en garde aux chefs militaires de partis en conflit, les sommant de respecter l'accord de cessation des hostilités signé le 21 décembre à Addis Abeba par le gouvernement sud-soudanais et les groupes rebelles. Les affrontements de l'état de Yei River mettent aux prises les troupes gouvernementales et les rebelles, loyaux à l'ancien premier vice-président Riek Machar. Selon le porte-parole militaire sud-soudanais, le général Lurai, les combattants de Machar ont attaqué des positions de l'armée dans les villes de Morobo, Bazi et Yondu. 5 ont été tués, a-t-il précisé. Les rebelles, par la voix de leur porte-parole, le colonel Lam Gabriel, soutiennent avoir répondu à une offensive des soldats gouvernementaux à Yondu. 7 rebelles et soldats gouvernementaux ont péri dans ces combats, a indiqué le colonel Lam Gabriel. Les deux camps assurent malgré tout qu'ils ont décidé d'honorer le cessez-le-feu et que tous les chefs militaires ont eu pour instruction d'arrêter les combats et de permettre la libre circulation des civils et de l'aide humanitaire.
Actualité hors d'Afrique maintenant, tension dans la péninsule de Corée en Extrême-Orient. La Corée du Nord a accepté de dialoguer avec la Corée du Sud mardi prochain. Les discussions auront lieu à Panmunjom, un village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée dans les années 1950. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Séoul a fait savoir que ces discussions porteraient notamment sur les Jeux Olympiques de Pyeongchang qui se tiennent du 9 au 25 février et sur la question de l'amélioration des relations intercoréennes. Ce dialogue intervient après 2 années de dégradation du climat sur la péninsule au cours desquelles la Corée du Nord a mené 3 essais nucléaires et multiplié les essais de missiles. Elle affirme aujourd'hui avoir atteint son objectif militaire en se dotant de la capacité de menacer du feu nucléaire l'ensemble du territoire continental. Américain. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est servi lundi de son adresse du Nouvel An à la Nation pour tendre la main en direction du Sud. Séoul a répondu en proposant la tenue de cette rencontre le 9 janvier. Depuis 2015, elles sont les premières discussions de haut niveau à Panmunjom. Les deux Corées ont dès lors remis en service mercredi leur liaison téléphonique qui était coupée depuis 2016, continuant à jouer l'ouverture malgré l'ironie du président américain Donald Trump qui s'était vanté d'avoir un bouton nucléaire beaucoup plus gros que celui de Kim Jong-un. Washington et Séoul ont d'ailleurs convenu hier soir de reporter leur manœuvre militaire prévue pendant les Jeux Olympiques dans un signe d'apaisement envers le régime nord-coréen.
Et pour terminer, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce vendredi une réunion sur les violences en Iran à la demande des États-Unis. La réunion est d'ores et déjà critiquée par la Russie qui estime que les manifestations en Iran ne relèvent pas du Conseil de sécurité. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.